France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Hélène Grimaud. Je suis née à Aix-en-Provence en 1969 et je suis musicienne.
Après des années à chercher comment canaliser toute cette énergie, vous allez rencontrer la musique. Ouais. Comment se passe cette première rencontre, Marie-Françoise
Tarit, ouais. Une rencontre plutôt ludique.
Hein, parce que c'est l'idée de qui ?
De mon père. Et donc il m'a déposé à ce cours. C'était une grande pièce avec un piano droit, avec un set of drums, voilà. Mais elle avait de très bonnes idées. Alors la plupart des enfants étaient un peu plus jeunes que moi quand même. Donc elle jouait des petites pièces, hein, déjà de scènes d'enfants ou le galabourreur, enfin des choses. Alors elle demandait aux enfants, aux enfants, comme si je n'en faisais pas partie, de chanter pour essayer de déceler un éventuel sens, une bonne oreille ou... Et après, avec la percussion, voilà, pour le rythme, pareil. Donc, c'était vraiment un cours d'éducation musicale de base, si vous voulez. Et quand mon père est venu me chercher, à la fin de l'heure, elle lui a dit tout de suite, vous savez, je pense qu'elle a un don, ce serait bien qu'elle commence avec le piano. Hein. Elle pourra toujours changer plus tard si elle le souhaite, mais avec le piano, c'est la base. Donc, je vous le recommande. Et mon père, qui a toujours été dans l'action, il ne peut jamais lui dire quoi que ce soit deux fois. Donc, il a dit, bon, bah alors, on va faire comme ça. Et donc, est arrivé un piano droit à la maison et une recommandation de professeur pour des cours. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Et moi, je me souviens de cette sensation très forte d'évasion. Voilà. J'ai eu le sentiment tout d'un coup que ça y est, les choses se mettaient en place et que ça allait m'accompagner durant toute ma vie. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire que d'être musicienne professionnelle. Je ne pouvais pas le soupçonner, évidemment. Mais il y a eu un avant et un après. Comme j'ai souvent dit, ce moment où on sent que les choses vont changer, ça a été le cas, là, oui.
Parce que Marie-Françoise Tarit, elle vous a écouté, elle a décelé quelque chose. Donc ça, c'est elle qui voit ce que vous avez comme talent, qui le décèle. Mais vous, ce que vous ressentez, c'est en chantant, en écoutant les autres, en jouant, ce pivot-là, chez vous, il naît au moment de toucher le piano pour la première fois.
Je dirais plus, oui, donc il devait y avoir aussi un côté tactile, parce qu'écouter de la musique, ça avait déjà été le cas, donc c'était plus la possibilité de produire un son, soi-même, un son mélodieux. Et alors après, elle m'a aussi très vite aiguillée vers d'autres professeurs. Et là, les choses donc plus sérieuses, dans la mesure où voilà, c'était tout d'un coup des œuvres, même des œuvres d'enfance, mais quand même, ça s'apprenait, il fallait travailler. Et c'est comme ça que ça a commencé.
L'instrument, il y a quelque chose de sensuel d'emblée pour vous.
Oui, en même temps, de tous les instruments, ça n'est pas le plus sensuel, hein. Attention, c'est peut-être le moins, parce que c'est un des seuls instruments où là, on ne sent pas vraiment le son se produire, en tout cas pas dans toute sa plénitude, puisqu'on n'a que très peu de contrôle dessus une fois qu'il est émis. Et donc, alors j'ai songé à changer, j'étais attirée par le violoncelle, je crois par le registre. J'ai même essayé un peu le violon comme ça, enfin, en l'empruntant à une camarade du conservatoire d'Aix et en essayant de trouver les premières notes du concerto de Cacciatorian, qui était une pièce imposée à l'époque pour les jeunes violonistes de cette classe. Mais bon, je suis toujours revenue au piano, donc il doit bien y avoir une raison. Et puis je crois aussi que ces deux dimensions, verticale et horizontale, c'est quelque chose qui convenait finalement bien à la façon dont mon esprit est structuré, mélodique et harmonique.
Oui. Et puis après, il y a aussi ce contact avec le piano qui vous fait face. Donc, il y a une forme de lutte. Est-ce que ça vous va pas bien aussi, d'être en prise avec quelque chose de plus grand?
Oui, vous avez raison. Je crois sans doute aussi. Pas seulement d'être dans un acte enveloppant, physiquement, comme ça ne peut que l'être avec un violon ou un violoncelle, mais d'avoir comme ça cette créature massive qui vous fait face. C'est vrai. C'est aussi une grande présence, le piano. On se sent toujours mieux près de lui, même avant qu'un son ne résonne. Donc oui, vous avez raison.
Et donc il y a l'amour pour le piano et l'amour pour la musique. Pour vous, il y a les deux, l'instrument et la musique. Et l'instrument n'est pas juste le vecteur de la musique.
Oui, au début, effectivement, ça a été le cas. Parce qu'il y avait cet aspect du jeu, l'instrument pour lui-même. Quand même, assez vite, ça s'est transformé, parce qu'on réalise évidemment tous, au fur et à mesure, que, voilà, que l'instrument n'est exactement que ça. C'est un véhicule pour l'émotion, pour le discours, pour l'expression de l'œuvre. Alors là, on prend une certaine distance, mais enfin, avant de pouvoir prendre des distances, il faut déjà l'avoir épousé, cet instrument.
Ouais. Avant de devenir une musicienne chez qui ne subsiste plus la pianiste, d'une certaine façon.
Oui. Et puis bon, ça, on se lève toujours le matin pour y arriver quand même.
Alors vous évoquez les professeurs qui, après Marie-Françoise Tarit, sont évidemment là pour l'apprentissage, la pédagogie véritablement du piano. Jacqueline Courtin.
Oui. Oui, je lui dois beaucoup, elle était merveilleuse, merveilleuse.
C'était le conservatoire d'Aix ?
C'était le conservatoire d'Aix. Elle avait une relation très proche avec sa sœur. Jeannette, elles avaient une petite maison avec un jardin, avec un berger belge noir qui était magnifique. Donc c'était pour moi un cadeau d'y aller pour les leçons, parce qu'il y avait d'abord le chien à l'entrée, au portail. Et puis après, voilà, chien noir, piano noir. C'était un Steinway B. Alors bien recouvert, avec un beau textile pour le protéger. Et puis toutes ces partitions, elle a noté tout. Moi, j'étais fascinée, je me souviendrai toujours, quand elle m'a présenté à la sonate de Berg. C'était avant que j'entre au conservatoire de Paris, donc je devais avoir 11 ans. Donc pour quelqu'un qui a commencé relativement tard, disons 7 ans et demi, 8 ans, elle n'avait pas froid aux yeux, Jacqueline Courtin. Et non, mais ça a été merveilleux, parce qu'elle n'a jamais pris de précautions en ce sens. C'est-à-dire que pour elle, il n'y avait pas de limite, et c'est très bien, parce que sinon, dès qu'on en a conscience, eh bien, on les crée, et elle se renforce. Donc ça a été formidable. Et cette partition, d'ailleurs, elle me l'a donnée, elle tombe en poussière maintenant, mais je la vénère toujours, avec de partout, les notes sont à peine lisibles, il y a du bleu, du rouge, du vert, tout est annoté. Alors évidemment, la ponctuation dans cette sonate de Berg, il y en a 3 par note, c'est quand même très très détaillé, c'est une œuvre extraordinaire, et oui, c'était des moments de rêve passés chez elle.
Et c'était des moments où elle jouait, vous jouiez, il y avait aussi ce jeu-là.
Oui, absolument. Elle jouait magnifiquement et elle n'avait pas peur de s'asseoir au piano et de jouer elle-même. Elle avait un très beau toucher, elle savait faire chanter le piano. Et c'est à elle aussi que je dois d'avoir pu rencontrer Pierre Barbizet. Parce que quand on est arrivé au bout de ce chemin du conservatoire d'Aix...
Combien d'années vous êtes avec elle alors ?
Je dirais 4 ans. Enfin, je perds un peu le fil aussi de tout ça, mais je dirais oui, 4. Et elle a compris qu'elle avait besoin de convaincre mes parents que c'était effectivement la bonne route à me laisser suivre, parce que ça impliquait encore une fois un départ d'Aix. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul conservatoire national supérieur de musique, il était à Paris. Donc elle a organisé cette rencontre avec Pierre Barbizet. Moi, j'arrivais à la fin du cursus au conservatoire d'Aix.
Pierre Barbizet, ça, c'est pas Paris, c'est Marseille.
Mais c'est ça. Ouais. Mais donc, ça a été, pour moi, Pierre Barbizet, c'est lui qui a permis que je puisse aller à Paris, dans la mesure où il a dit à mes parents, écoutez, donc c'est vraiment ce pourquoi elle est faite, il faut la laisser faire. Et donc, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de se présenter au conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et voilà, et c'est comme ça que ça a eu lieu. Alors je suis allée le revoir, j'ai retravaillé avec lui pendant le courant de cette année, et même encore la première année après avoir intégré le conservatoire. Et ça a été extraordinaire. Quel homme, quel musicien.
Elle avait quelle place, alors, pour vous ?
Bon, elle prenait toute la place. La place de la musique, la place des animaux que je n'avais pas, la place de l'aventure. En fait, elle a été toute puissante. Oui.
Et la place aussi des grands espaces. Finalement, l'espace sonore, ça devient aussi un grand espace.
C'est vrai, parce qu'on entre dans ces paysages musicaux. Et moi qui avais toujours, en tout cas, qui pensais avoir besoin de plus d'horizons infinis, ça, certainement, ça a joué ce rôle aussi, c'est vrai.
La solitude est un lieu.
La solitude est un lieu, c'est un refuge aussi. Oui.
Et ça vous enfermait, mais vous n'en souffriez pas ? Ou vous ne diriez pas que ça vous enfermait, cette musique ?
Non, je dirais au contraire, c'est ça qui m'a permis d'aller vers moi-même, vers ailleurs en même temps. Et d'ailleurs, ça inquiétait maman, parce qu'elle se disait, elle ne va pas avoir une enfance, une adolescence normale, ce serait peut-être mieux qu'elle joue avec les amis de classe, qu'elle soit un peu plus dehors, qu'elle s'oxygène, souci de parents. Et finalement, ils se sont dit, bon, ben, si c'est ce qu'elle aime, on va la laisser faire, on ne va pas se mettre en travers de ça. Et heureusement.
Il y avait aussi dans cette solitude, dans cette quasi-dévotion aussi à la musique, déjà quelque chose, vous diriez, de mystique, et est-ce que ça faisait partie aussi de la culture familiale ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là ? Est-ce que la religion était présente ? Est-ce que la prière, c'était quelque chose, par exemple ? Est-ce que la musique pouvait en devenir une ?
Oui, la prière, c'était important. Pas inculqué par mes parents nécessairement. Alors évidemment, j'étais aussi à l'église avec eux, mais assez rarement. Ce sont des gens plutôt basés sur le raisonnement. Mais comme ils sont généreux, en fait, de quoi d'autre avons-nous besoin ? Ça suffit à trouver sa place dans ce monde, à s'inscrire et en même temps, effectivement, cette conscience très forte d'une présence d'un autre, de quelque chose de spirituel qui nous entoure et de comment y accéder.
Qui nous dépasse aussi.
Oui. Oui.
Et c'est une inspiration.
Absolument. C'est un peu le sentiment que j'ai retrouvé plus tard. Moi, je me souviens quand on allait comme ça vers les Basses-Alpes, où chaque fois qu'on prenait la voiture, j'adorais scruter les cimes et essayer d'y déceler une silhouette. Alors à l'époque, c'était la silhouette de Jésus. Enfin, ça pouvait être autre chose aussi. Et ce que j'ai retrouvé après, au contact des grands espaces aux États-Unis, où c'est quelque chose qui est totalement, comment dit-on, humbling, c'est-à-dire qui vous remet à votre place, et où on se sent insignifiant, mais dans tout ce que ça peut avoir de plus merveilleux, c'est-à-dire de se sentir connecté.
La gratitude aussi.
Ou la gratitude, mais aussi de se sentir connecté à un au-delà, en même temps qu'à tous ses prochains. Et c'est merveilleux. Parce qu'on n'est rien, ça remet tout en place, si tant est qu'on l'ait oublié. Moi, je n'ai pas trop tendance à l'oublier quand même, je dois dire. Mais c'est un sentiment extraordinaire. En fait, qui permet cet esprit de communauté aussi. Ouais.
France Musique, les grands entretiens d'Hélène Grimaud.
La beauté, trouver quelque chose de beau, d'aspirer à quelque chose de beau, ça vous parle ?
Oui, mais ça, je pense que je le dois aussi à mes parents, parce qu'ils sont tous les deux très esthètes. Souvent, ils m'ont emmené en Italie, on allait au musée, on allait... toujours, on ne ratait aucun monument, on allait dans les églises, dans les cathédrales. Ils étaient très sensibles à la beauté de la nature. Ma mère me faisait toujours remarquer, voilà, une fleur ici, une abeille là, un papillon là, un ver luisant. Donc ça a été une approche comme ça très tôt dans la vie. Donc après, en général, ça ne fait que se développer, c'est vrai.
Alors Hélène, quand vous arrivez chez Pierre Barbizet, j'imagine que vous vous souvenez de ce trajet sans doute en voiture qui vous emmène à Marseille, de la rencontre avec cet homme. Est-ce que d'abord, vous le connaissiez déjà par le disque ? Est-ce qu'il représentait déjà un musicien pour vous avant même de l'avoir rencontré ou pas ?
Oui, je connaissais ses enregistrements avec Christian Ferras. Et merveilleux. Et donc je suis allée, voilà... dans l'attente, je ne pense pas, je ne me souviens pas avoir été intimidée particulièrement. Et puis c'est un personnage qui savait tant mettre en confiance. Il avait ce sourire magnifique, cette gouaille, cette lueur comme ça dans l'œil espiègle. Et
cet appétit.
Et cet appétit, exactement. Cette générosité. Il avait des mains absolument magnifiques. Et dès qu'il mettait sa main sur votre avant-bras, voilà, il y avait ce souffle qui descendait. Et puis alors ces leçons, on ne pouvait plus appeler ça des leçons, c'était des sessions comme ça, marathon, ça durait des heures, il ne regardait jamais l'heure pour savoir quand la prochaine heure commençait, ça c'était vraiment incroyable parce qu'on se perdait complètement. Et on avait la sensation que rien d'autre n'existait. Et c'était des séances d'une intensité. Et puis il a su aussi introduire cette poésie, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup comme ça en images, qui est... évoquait toujours, qui parlait de bruit, de couleur, de texture. Donc un enseignement très riche. En même temps, bon, pareil, il n'hésitait pas à se mettre au piano et à montrer ou à jouer sur votre main, sur votre bras, sur votre épaule pour que vous sentiez le poids des doigts, la façon de prendre le son. Donc un professeur extraordinaire. Mais j'ai eu de la chance parce que j'en ai entre, voilà, que ce soit Jacqueline Courtin, Pierre Barbizet, Jacques Rouvier, Christian Vivaldi, Geneviève Joie, mais je n'ai eu que des professeurs fantastiques.
Alors, qu'est-ce que vous travaillez avec lui ?
Beaucoup de sonates de Beethoven, du Schumann, du Ravel, le Tombeau de Couperin, Gaspar de la Nuit, donc de grandes œuvres, où est-ce qu'il ne pouvait que m'enchanter, parce que j'avais toujours hâte d'aller plus loin. Donc ça a été formidable, et puis il me faisait confiance. Et voilà, je pense qu'il m'a préparé pour cette expérience du Conservatoire de Paris, oui.
La virtuosité, c'était une griserie, c'était une quête ou quel rapport vous aviez quand vous êtes dans cet apprentissage ?
Mais c'est difficile à dire parce que je ne me souviens pas vraiment avoir appris de technique. Je pense que j'avais certaines aptitudes, donc j'ai eu de la chance. En même temps, il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées plus tard parce qu'elles n'avaient pas été spécifiquement enseignées. Et puis après, c'est l'apprentissage d'une vie aussi. Et en fait, il faut toujours se concentrer sur les sensations, sur ce qu'on ressent pendant qu'on joue. On n'est jamais à l'abri de quelque chose qui se passe où tout d'un coup, on perd un certain naturel à faire des choses qu'on faisait, comme on respirait. Cette perception aiguë, comme ça, des sensations physiques et du fait qu'il faut toujours avoir pleinement conscience de ce qu'on fait, être là à 100%, physiquement, psychiquement, émotionnellement. Spirituellement, même si on le peut. C'est quelque chose que j'ai d'ailleurs après redécouvert par le contact avec les animaux. Mais dans cet instant, voilà, on ne peut jamais être dans le, comment dire, dans le automatic piloting. Où tout d'un coup, il y a une mémoire du muscle qui prend le relais. Ça, c'est très dangereux en tant qu'instrumentiste d'ailleurs. Et on peut avoir appris tout ce qu'on veut au niveau de la technique. On n'est jamais au-delà de ce besoin de toujours être vigilant, oui.
Et les années qui passent, est-ce qu'elles creusent ou elles amenuisent le delta entre ce qu'on entend dans sa tête et ce qu'on produit ?
On espère qu'elles l'amenuisent. En même temps, l'idéal se recule toujours. toujours plus. Mais voilà, ça nous permet d'avancer aussi. Donc on est toujours là à essayer de combler ce fossé, cette distance. Mais heureusement, me direz-vous. Sinon, ça ne serait plus de l'art. Comme je l'ai souvent dit, l'artisanat, il n'y a rien de plus merveilleux et noble. Et il y a un côté artisanal dans ce que nous faisons, mais il y a aussi après un côté totalement insaisissable, où quoi qu'on fasse, ça vous dépasse, et heureusement, parce que si on arrive en étant à 100% dans le contrôle, on passe à côté de ce qui est essentiel dans ce cas-là, l'émotion, la prise de risque, le fait d'être au bord du précipice. Si on veut trop rester dans le côté comme ça souverain de ce qu'on a accompli durant les séances de travail, et là où on se sent bien, voilà. Et donc c'est un travail toujours à réexaminer.
En fait, la sécurité est à la fois nécessaire et en même temps c'est aussi
un leurre. Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'on cherche cette quête ? Est-ce que ça a à voir avec l'honnêteté ?
Tout à fait. Parce qu'il faut savoir de quoi on est capable, de quoi il s'agit aussi, et donner tout ce qu'on a dans cet instant, sans prétendre être autre chose ou pouvoir donner autre chose. Donc c'est une question effectivement de générosité, d'authenticité. Et encore une fois, on en revient à ceci d'être là dans l'instant. Parce qu'il n'y a... Il n'y a que ça
ici
qui compte.
Et maintenant. Oui, oui. Donc c'est l'incarnation.
Oui.
La présence.
Et bien c'est ça, tout ce mystère de l'interprétation. C'est cette incarnation, comment ça se passe, à quoi le doit-on. Et cette idée de visite, quelque chose qui vous rend, littéralement, qui vous rend visite pendant le concert, à vous, au public, et qui ne peut s'incarner sans cet échange, sans ce partage. Oui.
La première expérience de jouer en public importante pour vous, elle arrive assez tard. Est-ce, parce que dans ces premières années, est-ce qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas tellement encore de concerts. Si, déjà, avec le conservatoire à Aix et avec Pierre Barbizet. Ou finalement, c'est par exemple, je sais pas, la première expérience concours d'entrée au conservatoire. Bon, c'est un certain public, mais je veux dire, c'est de ce... Le rapport à la scène.
Oui, non, vous avez raison. Ça a été la première fois où je me suis retrouvée sur une scène, certainement en dehors de la petite salle de concours du Conservatoire d'Aix. Ça a été pour le concours d'entrée au Conservatoire de Paris. Enfin, évidemment, il n'y a qu'un jury là, donc c'est quand même assez limité. Non, la première expérience de concert, vrai, ça a été ma deuxième année au Conservatoire de Paris, où j'ai eu la chance de pouvoir jouer faire ce deuxième concerto de Chopin avec l'orchestre du Conservatoire d'Aix. Et... Non, ça c'était la vraie vie.
Qui commençait.
Ouais.
Hélène Grimaud a 14 ans lors de sa première prestation pour la télévision qui interprétait un extrait d'Iberia d'Albéniz en 1983. Et c'est ainsi que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Hélène Grimaud. Une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Roch et déjà disponible en podcast sur l'application Radio France. À réécouter sur francemusique.fr.